Bonjour, c'est la dernière prédication au sujet du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit qui est la vie, qui est l'Esprit de Dieu. Je vais commencer par vous lire un texte dans la Bible Traduction officielle liturgique publiée par les évêques de France en 2013. Alors ne cherchez pas ce texte dans vos Bibles protestantes parce qu'il ne s'y trouve pas. Je lis. C'est le livre de la Sagesse au chapitre 1, verset 16. Alors. Les impies ont invité la mort du geste et de la voix, la tenant pour amie, pour elle, ils se consument. Ils ont fait un pacte avec elle. Ils méritent bien de lui appartenir. Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines, ceux de la fumée, et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dispersera comme l'air léger. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et nul ne saura plus ce que nous avons fait. Notre vie passera comme un nuage sans laisser de traces. Elle se dissipera comme la brume, chassée par les rayons du soleil, écrasée par la chaleur. Nos jours passent comme une ombre. L'heure de notre fin ne peut être reculée. Elle est scellée et nul n'en revient. Alors allons-y, jouissons des biens qui sont là, vite, profitons des créatures tant que nous sommes jeunes. Enivrons-nous de bon vin, de parfum et ne laissons pas échapper la fleur du printemps. Voilà. Eh bien, écoutez voir. Ce texte a été écrit juste avant ou juste après la naissance du christianisme, on n'est pas sûr. Et son auteur inconnu était d'Alexandrie, c'est tout ce que nous savons. Il se présente comme étant Salomon. Facilement, les gens faisaient ça, ils écrivaient sous le nom de quelqu'un de célèbre. Mais en réalité, c'est un juif fidèle à la tradition biblique et au courant de la culture et des pratiques religieuses de l'Égypte hellénisé, c'est-à-dire sous influence grecque. On le voit en lisant le texte, on s'en rend compte, on voit comment il pensait et on peut analyser cela. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les protestants ne l'acceptent pas comme texte inspiré et ils ne l'ont pas mis dans le canon. Mais il faut avouer que c'est un très beau texte apocryphe qui est bien construit. Dans un premier temps, il fait appel aux dirigeants de ce monde corrompu. Et deuxièmement, il montre que la seule façon de s'en sortir, c'est de suivre la voie de la sagesse divine. Et il termine par une méditation-prière sur la fondation de son peuple. Alors en le lisant, je me suis dit que il y a environ 2000 ans, les hommes étaient déjà comme ceux d'aujourd'hui. L'homme du 21e siècle n'a pas beaucoup évolué dans la pensée au sujet de Dieu, de la vérité, de l'esprit de vérité. En fait, l'homme d'aujourd'hui n'a pas évolué du tout. L'homme d'il y a 2000 ans pensait exactement comme la populace d'aujourd'hui. Alors, quelle est notre origine? Parce que c'est un peu ça dont il parle au début là. Hein, et c'est en fait là, c'est là le terrible problème de l'humanité. Parce que si l'homme savait, avait la réponse à cette question, il ne se permettrait pas toutes ces folies. Aujourd'hui, on nous dit « la France est laïque ». Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle le veut bien. Alors on va venir sur le pourquoi de la chose tout à l'heure, mais elle a trouvé un fondement scientifique pour asseoir sa vocation, la théorie de l'évolution. Pourquoi l'éducation nationale attache une si grande importance à cette théorie? C'est pas pour rien, je vais vous expliquer quelque chose. Le système endoctrine les gamins avec cette doctrine dès leur plus jeune âge parce que l'éducation nationale sait que ceux qui la payent et ceux qui la payeront, c'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui, il faut absolument qu'ils deviennent leurs esclaves volontaires pour construire un monde matérialiste. Ils ne veulent pas que la pensée des gens s'évade dans des croyances qu'ils détestent. Alors, ils ne veulent pas d'un Dieu souverain. Par contre, quand ça va mal, ils accusent Dieu. C'est bizarre, hein? Accuser quelqu'un qui n'existe pas. Voilà. Parce qu'ils pensent qu'il n'existe pas, mais ils l'accusent quand même. Ils ne veulent pas d'un souverain divin. Et ils prétendent qu'on n'a aucune preuve de l'existence de Dieu. Alors, ils imposent aux enfants une théorie qui n'a absolument rien de scientifique et ils le savent. L'évolution, ça n'est qu'une théorie. Et cette théorie n'a jamais été prouvée, donc elle n'est pas scientifique. Mais ils l'enseignent comme telle. Par contre, il y a beaucoup de scientifiques qui démontrent pourquoi elle est fausse, mais ça, ils n'ont pas tellement accès aux médias. Pourquoi? Et puis aussi une autre question, pourquoi les preuves découvertes par des incroyants scientifiques ne sont pas mises au même rang que ce que croient les chrétiens? Je vais vous le dire, parce que malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ne sont plus la lumière du monde. De nos jours, ils racontent n'importe quoi, ces pauvres chrétiens, parce que moi je ne crois pas dans l'évolution, mais je ne crois pas non plus que les chrétiens croient. Je ne crois pas que Dieu a créé le monde il y a 6000 ans. Faut pas être bête, faut arrêter. Et eux, c'est ça qu'ils mettent en avant. Donc les scientifiques ne peuvent pas s'accorder avec cette croyance idiote qui pense que nous avons été créés il y a 6000 ans. On sait bien que c'est faux. La Bible en parle, mais ils veulent pas savoir. Les chrétiens veulent rien savoir. Ils veulent juste répéter ce que le bon pasteur, à peine instruit dans une école biblique, leur raconte. Et puis, de nos jours, plus le mensonge, pardon, est gros, plus il passe pour vrai. Plus il est répété, plus la populace y croit. Frères et sœurs, vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est Hitler. Il avait dit, un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais s'il est répété 10 000 fois, il devient une vérité. Et c'est une technique pour faire avaler n'importe quoi au peuple. Et les chrétiens avalent n'importe quoi. Parce qu'on le répète tout le temps, tout le temps. Et les non-chrétiens avalent aussi n'importe quoi parce que on le répète, on le répète, on le répète. Ils finissent par croire n'importe quoi. Et les têtes, ceux qui nous gouvernent, utilisent encore cette technique qui est renforcée par les médias et par l'Internet, entre autres. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, si vous interrogez n'importe qui dans la rue, il va vous dire que l'homme descend du singe. Et si vous mettez ça en doute, ils vont vous regarder comme si vous sortiez tout droit de la forêt amazonienne. Comme un singe, quoi. Le pourquoi, ça ne leur vient pas à l'idée, ça ne leur monte même pas à l'esprit. Ils ne se posent même pas de questions. On descend du singe. Ouais. Ils ont appris cette théorie non vérifiée à l'école, donc elle doit être juste. Bon, je disais que les chrétiens ne sont plus la lumière du monde, et je disais que ça fait déjà belle lurette que les chrétiens ne sont plus la lumière du monde. Faut bien l'avouer. Les blouses blanches de la science disent moins d'idioties que n'en disaient et que n'en disent les soutanes noires et les pasteurs endimanchés comme des VRP d'aujourd'hui. Les évangéliques se chipotent sur des questions de doctrine qui servent à rien, qui n'ont aucune utilité pour la vie des gens, mais rien du tout. Ils se chipotent là-dessus, ils sont tous divisés. Et dans sa lettre à Laodicée, Jésus parle à son église la fin. C'est la dernière lettre. Vous êtes des chrétiens, vous savez que Jésus revient bientôt et qu'il y a donc eu sept âges, je vous ai prêché ces choses, et que le dernier âge, eh bien, c'est le nôtre, et Jésus parle à son église, et voilà ce qu'il lui dit. On est arrivé à la fin du temps de la vraie église sur la terre, pas à la fin du monde, à la fin du temps de la véritable église sur la terre, elle va être enlevée. Elle lui dit, pardon, Jésus lui dit, Jésus dit à l'église, tu ne sais pas que tu es pitoyable. Apocalypse 3, 2. On va lire ce texte à partir du verset 15, si vous voulez. C'est Jésus qui parle, qui dit à l'église d'aujourd'hui, je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois froid ou brûlant aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid. Je vais te vomir de ma bouche. C'est Jésus qui dit ça, hein, à l'Église. Tu dis, l'Église dit, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai des belles cathédrales, j'ai des biens immobiliers un peu partout, j'ai construit des écoles, des hôpitaux, et puis voilà, je suis riche, je me suis enrichi spirituellement, connaissance maintenant. Tu dis, l'Église dit, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et Jésus lui dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, Jésus dit, alors, je te conseille, achète chez moi, pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Il dit pas, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un m'ouvre, ben je rentre dans l'église. Non, il dit, je me tiens à la porte de l'église, je frappe, si quelqu'un vient m'ouvrir, ben j'irai manger chez lui. Retour à la vie communautaire, Jésus dans les maisons. Jésus dit ça à l'église. Paye le prix. Achète chez moi ou achète de moi dans l'autre version. Paye le prix. Il y a un prix à payer pour que tu puisses être différent de ce que tu es, c'est-à-dire pauvre, pitoyable, misérable, aveugle, nu, sans le savoir. Paye le prix. De l'or purifié par le feu. Qu'est-ce que c'est? La Bible nous dit que l'or purifié par le feu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme de l'or qui est purifié, qui est passé sept fois au creuset, qui est pur. Malheureusement, aujourd'hui, la parole de Dieu, elle était souillée par les traditions et par les rajouts et par les choses que l'Église a ôtées, n'y croyant plus. Voilà de quoi elle doit être purifiée. De toutes ces traditions qui souillent la vérité. Alors, Jésus dit, achète de moi, paye le prix, ça va te coûter quelque chose, mais il faut que tu le fasses, sinon je vais te dégobiller, je vais te vomir, je vais te vomir. Non mais, est-ce que c'est dans la Bible? Si c'est dans la Bible, je ne suis pas en train de lire n'importe quelle Bible, je lis la Bible, traduction officielle liturgique de... Le texte intégral publié par les évêques catholiques francophones. C'est pas une petite Bible écrite par je ne sais quel obscur théologien sur un coin de table de sa cuisine. C'est la vraie Bible. Aussi vrai que les Bibles protestantes d'ailleurs, mais bon. Paye le prix, achète de moi. De l'or, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui est passée au feu, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu brûle et crame, c'est-à-dire toutes tes traditions, tous tes machins, toutes tes bêtises, de superstitions, de... Paye le prix, achète de moi des vêtements blancs pour couvrir et pour ne pas laisser paraître la honte de ta nudité. L'Église est nue, elle se balade à poil dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, normalement, elle le sait pas, mais normalement, si elle savait qu'elle était à poil, elle aurait honte, mais elle ne le sait même pas. Ce vêtement blanc, d'après la typologie biblique, le vêtement blanc, c'est les bonnes œuvres. Revêt-toi de bonnes œuvres, c'est-à-dire fais le bien, pour que les gens voient autre chose que les scandales, la bêtise et l'indécence dans l'Église. Ces pasteurs qui prêchent l'abondance, qui s'habillent en Prada pendant que les fidèles, eux, s'habillent chez Tati. Et voilà, vous avez très bien compris. Je ne parle même pas des richesses du Vatican ni de tout ça. Je parle juste, voilà, de ce qu'on voit au ras des pâquerettes. Que tes œuvres soient, ce qu'il est en train de dire là, Jésus, c'est que tes œuvres soient inspirées par le Saint-Esprit. Il dit ça à l'Église. Que tes œuvres ne soient pas inspirées par l'esprit du monde, qui est pourri, qui est corrompu, et qui s'est introduit dans l'Église. Et puis ensuite il dit, et je te demande d'acheter de moi, c'est-à-dire que tu payes le prix, un remède pour l'appliquer sur tes yeux, parce que tu peux très bien acheter le remède et puis pas l'appliquer sur tes yeux, c'est-à-dire tu peux très bien te procurer une Bible, la lire, mais ne pas l'appliquer dans ta vie, tu vois ce que je veux dire? Afin que tu vois. Alors, il dit, paye le prix pour t'acheter ce remède et te l'appliquer, afin que tu vois. Paye le prix, achète de moi ce remède. Parce que tu es aveugle, tu marches au hasard n'importe comment, prêt à tomber dans le premier trou, tu ne vois même pas, tu vois pas, et tu ne te rends pas compte à quelle époque nous vivons. Jésus dit, vous savez bien reconnaître quand vous voyez que le ciel est rouge, comme ça, quel temps il fera demain, mais pour ce qui est des temps, vous n'y voyez rien du tout. Il dit ça aux religieux de son époque. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Vous ne voyez pas dans quelle époque on vit? Vous ne voyez pas? Non. Vous dites, oh, ben, il y a déjà eu des crises, ça finira par s'arranger. Tout va très bien, madame la marquise. Et puis on a la foi. Et puis il faut prier pour le monde, pour que le monde soit en paix. Non, mais vous rêvez ou quoi? Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Il n'y aura pas la paix dans le monde. Ça va aller de pire en pire. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez. Vous ne voyez même pas clair. Le monde est voué aux flammes de l'enfer. Voilà ce que la Bible nous dit. Et nous sommes appelés à en sortir rapidement. L'Église est malheureuse, pitoyable, pauvre, aveugle et nue. Et elle ne le sait pas. Vous savez quoi? Au lieu de vous chamailler pour savoir si le Saint-Esprit est une personne distincte du Père ou pas, vous feriez mieux d'obéir aux injonctions du Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, et de payer le prix que vous devez payer pour pouvoir être correctement aligné sur ce que Jésus veut, et non pas sur ce que votre pape dit, ou ce que Sainte Dugule, Sainte Rita ou Sainte je ne sais quoi raconte. Vous feriez mieux d'obéir aux injonctions du Saint-Esprit, à la pure et simple parole de Dieu. Voilà. Je suis sûr, quand j'ai dit que j'allais commencer une étude sur le Saint-Esprit, que plusieurs s'attendaient à ce que je parle de la Trinité. Ben là, vous voyez, ça m'est complètement égal que vous croyez ceci ou que vous croyez cela. Ce que je voudrais, c'est ce que Jésus veut, c'est que vous portiez du fruit qui glorifie son nom. C'est ma dernière prédication au sujet du Saint-Esprit. J'en appelle à votre intelligence spirituelle pour que vous vous convertissiez. Amen. Merci Jésus. Merci de bénir mes frères et sœurs et de les secouer au travers de ce message et de permettre qu'ils puissent partager au plus grand nombre de leurs amis pour qu'ils puissent eux aussi se convertir. Merci Seigneur mon Dieu. Amen Jésus. Inscrivez-vous sur la newsletter. Abonnez-vous à la page Facebook. Nous sommes 1047 maintenant abonnés. Abonnez-vous et partagez avec vos amis. Ne gardez pas ça pour vous tout seul. Si vous aimez, ben dites-le. Ne dites pas simplement Amen, mais partagez avec vos amis. Faites connaître, montrez, engagez-vous en montrant ce que vous croyez et être la vérité et ce qui vous parle, ça va aussi parler à vos amis. Que Dieu vous bénisse. Engagez-vous vraiment davantage comme je vous l'ai enseigné ce soir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide, que Dieu m'aide aussi. Nous avons tous besoin du secours du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Et je veux juste terminer en disant, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Au revoir.